J'ai le plaisir de vous présenter Laurent Cohen-Tanoudji, qui va vous parler du nouvel ordre numérique, thème auquel il a consacré récemment un ouvrage chez Gallimard. Laurent Cohen-Tanoudji est né en 1957. Il est associé d'un cabinet d'avocats internationaux, il est avocat donc. Du point de vue de la formation, il est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres, diplômé de Harvard Law School, donc école de droit de Harvard, et de la faculté de droit de l'Université de Paris, de l'Institut d'études politiques. Donc c'est une carrière au départ d'universitaire et qui passe ensuite du côté du droit. Ses publications sont nombreuses, ça c'est le côté universitaire et intellectuel. Je les donne en détail. Un premier livre, Le droit sans l'État, paru aux presses universitaires de France en 1985. Je crois qu'il est en quadrige d'ailleurs maintenant. On le retrouve dans la collection de poche quadrige. La métamorphose de la démocratie, Odile Jacob, 1989. L'Europe en danger, Fayard, 92. Le choix de l'Europe, Fayard toujours, 95. Et le nouvel ordre numérique, je me suis trompé tout à l'heure, c'était chez Odile Jacob et pas chez Gallimard, en 1999. Spécialité droit des affaires internationales, justice et questions institutionnelles, économie numérique et affaires européennes. Donc je vais lui donner la parole pour une cinquantaine de minutes, selon notre bonne habitude, et ensuite vous pourrez lui poser vos questions. Je vous remercie.
Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis heureux d'ouvrir avec vous ce matin donc cette nouvelle série de conférences sur les technologies de l'information. En évoquant ce matin avec vous le nouvel ordre numérique, mon propos n'est aucunement de vous initier à une découverte fondamentale et encore tellement récente que dans les confidentiels de la science mathématique ou même de l'informatique, j'en serais malheureusement bien incapable. Beaucoup plus modestement, je voudrais essayer en 51 minutes de faire la synthèse des principaux aspects de ce qu'on appelle souvent la révolution numérique, c'est-à-dire la révolution produite par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et dont Internet est à la fois le symbole et l'expression la plus achevée à ce jour. Alors pourquoi parler à cet égard d'ordre numérique, alors même que cette révolution, par sa rapidité, sa complexité, son caractère protéiforme, donne souvent l'impression de vertige, voire de chaos. Alors même qu'Internet est généralement associé aux idées de liberté, de décentralisation, de déstabilisation, de bousculement des hiérarchies, alors encore que ce qu'il est convenu d'appeler la société de l'information apparaît de plus en plus porteuse de risques, de menaces pour nos libertés, nos droits, notre sécurité. Bien, face à cet indéniable désordre, qui est une dimension constitutive de la révolution numérique, et on verra que ce désordre est aussi créateur, j'ai voulu mettre en avant le pôle opposé, la notion d'ordre, pour illustrer trois caractéristiques principales de ce nouvel environnement qui formeront la trame de mon exposé. Donc je disais trois caractéristiques principales. Premièrement, le caractère structurant des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui fondent un nouveau paradigme économique, mais aussi de nouveaux usages sociaux, culturels, politiques. Deuxièmement, le caractère hiérarchisé de ce nouvel univers dans ses dimensions économiques, sociales, géopolitiques, par exemple. Enfin, le caractère régulé, ou du moins régulable, de l'environnement numérique et la spécificité de cette régulation. Alors, chacune de ces thèses est naturellement matière à débat, prend le contre-pied d'une idée reçue ou dispose de son antithèse. Certains voient ainsi dans le numérique un simple progrès technique, aussi important soit-il, et pas du tout une révolution. À l'idée de hiérarchisation, on opposera à juste titre la fluidité et la contestabilité de l'environnement numérique. Enfin, la régulation de la société de l'information constitue un défi redoutable. Je reviendrai sur ces trois pôles, mais l'important, à travers cette triple déclinaison de la dialectique ordre-désordre, que je vais donc développer maintenant. Mon propos est avant tout de vous faire explorer le vaste monde du web, ce qu'on pourrait appeler le Wide Web World, ses concepts clés et sa problématique. Au commencement était la technologie. En quelques mots, qu'est-ce que le numérique et comment en est-on arrivé là ? Les grandes étapes technologiques de la révolution numérique sont connues. Croissance continue de la puissance de traitement des ordinateurs, de la capacité de stockage et de la vitesse de transmission des données, accompagnée de la réduction tout aussi continue du coût et de la taille des équipements et des services, et de leur standardisation autour du tandem PC-Windows. On évoque souvent la loi de Moore qui veut que tous les 18 mois, la puissance de calcul des microprocesseurs double à coût constant. Cet ensemble de phénomènes a produit la micro-informatique, professionnelle puis grand public, au cours de la décennie 80. Deuxième temps, bien que ça ne se succède pas, mais que ce soit d'une certaine manière simultané, au moins partiellement, le phénomène de l'interconnexion des ordinateurs, de la communication des ordinateurs entre eux et le développement des réseaux numériques favorisés par la généralisation du codage numérique et par les progrès de la fonction de transmission des données. Progrès qui sont attribuables à la fois à l'accroissement de la capacité brute de transmission grâce à la fibre optique notamment, au phénomène de la compression numérique qui permet donc de comprimer les données, donc d'en faire passer un beaucoup plus grand nombre sur les réseaux, et enfin la technique de la commutation par paquet, qui permet donc de véhiculer les paquets de données à travers des réseaux de manière beaucoup plus efficace. Cela a produit Internet et le web au cours des décennies 90. Alors j'ai parlé de généralisation du codage numérique. De quoi s'agit-il ? Ben, ça signifie que toute information, qu'elle se présente sous forme écrite, graphique, sonore ou vidéo, est désormais susceptible d'être numérisée, c'est-à-dire convertie dans un langage structuré en bits, qui sont des unités fondamentales d'information électronique. Les bits sont des combinaisons de 0 et de 1, matérialisées physiquement par des variations électriques plus ou moins intenses au niveau des microprocesseurs. Le signal numérique offre des possibilités infiniment supérieures à celles du signal analogique. Il rend notamment possible les communications multimédia qui rassemblent sur un même support des informations de nature différente, images, dessins animés, vidéos, sons, programmes informatiques, pour les rendre interactives. Le développement prodigieux des capacités de calcul des microprocesseurs a en outre permis à la numérisation de gagner progressivement des réseaux de transmission de l'image et de la voix qui fonctionnaient jusqu'alors en mode analogique. Pense au réseau téléphonique par exemple, ou au réseau câblé. Le réseau téléphonique a été numérisé depuis maintenant pas mal de temps, mais les réseaux câblés sont en cours de numérisation. Alors à cette généralisation du codage numérique s'attachent trois bénéfices majeurs. Tout d'abord, donc, l'information numérisée peut être stockée et transmise par des supports physiques très divers, c'est-à-dire sur différents types de réseaux de communication, les lignes téléphoniques traditionnelles, le câble, le satellite, les réseaux à connectivité optique, etc. Par ailleurs, les données numériques peuvent être transmises et copiées quasi indéfiniment, sans perte d'information, grâce à la faculté de reconstitution aisée du message numérique. Enfin, troisième élément, et peut-être le plus important, l'information numérisée peut être traitée automatiquement avec un degré de finesse quasi absolu, très rapidement et sur une très grande échelle quantitative. Donc voilà en quelques mots pour la technologie. Mais la révolution numérique ne se réduit pas à la technologie, elle est en fait la résultante d'innovations technologiques, de développements réglementaires et d'initiatives commerciales. Au plan réglementaire, la révolution numérique est notamment indissociable du mouvement de déréglementation et de libéralisation du secteur des télécommunications à l'échelle mondiale, qui a engendré une baisse des coûts significative et une concurrence croissante, ainsi que de nouvelles offres de services de télécommunications. L'avance des États-Unis en matière d'économie numérique est ainsi partiellement attribuable à la précocité de l'ouverture des télécommunications américaines à la concurrence, qui date du début des années 80, soit qui a été faite donc avec 10 bonnes années d'avance sur l'Europe. S'agissant des développements commerciaux, je prendrai l'exemple de la télévision payante ou encore de la téléphonie mobile, qui font aujourd'hui partie de notre univers quotidien. Qui n'a pas son abonnement à Canal+, ou au câble, ou au satellite, ou son téléphone portable dans la poche, qui j'espère est un. Ces deux innovations, donc téléphonie mobile ou télévision payante, illustrent bien donc la triade technologie, réglementation, déréglementation et commerce. L'une comme l'autre sont le produit donc, d'une avancée technologique, du processus de libéralisation réglementaire, en l'occurrence la fin des monopoles publics de télécommunications et d'audiovisuel, et puis donc des initiatives commerciales qui se sont développées à partir de ces développements technologiques et réglementaires. Alors la résultante de tout cela, qui est au cœur de la révolution numérique, c'est ce qu'on appelle la convergence des trois secteurs clés que sont l'informatique, les télécoms et l'audiovisuel. Cette convergence a été favorisée par le processus de standardisation autour des normes Internet, ce qu'on appelle les normes IP, Internet Protocol, et elle s'observe aujourd'hui à trois niveaux différents. Le niveau des réseaux de communication, c'est là où le processus est le plus avancé, là où chaque type de réseau était antérieurement cantonné à un seul service, à un seul type de service, tous peuvent désormais transporter toutes les formes de contenu, la voix et les données, l'accès à Internet, la télévision, les services multimédia et interactifs. Par exemple, les réseaux téléphoniques filaires traditionnels servent aujourd'hui à véhiculer les services Internet, tandis que les réseaux câblés qui étaient jusqu'ici dédiés à la télévision pourront bientôt offrir des services de téléphonie sur Internet et des services d'accès à Internet. C'est déjà d'ailleurs un peu le cas. Le grand enjeu des prochaines années dans ce domaine est la construction de nouvelles infrastructures à large bande passante, permettant donc de véhiculer l'ensemble de ces services à un niveau satisfaisant de qualité, de rapidité et de coût. Deuxième niveau de convergence concerne les terminaux d'accès à ces services. Et la convergence permet par exemple de se connecter à Internet à partir d'un téléviseur ou d'un téléphone portable, ou encore de regarder des programmes audiovisuels sur un PC. Enfin, le processus de convergence affecte les services et les industries elles-mêmes en donnant progressivement naissance à de nouveaux produits, de nouveaux services, à de nouvelles entreprises multimédia et à l'économie numérique proprement dite. Alors précisément, la manifestation la plus immédiate et la plus spectaculaire du caractère révolutionnaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication se situe dans l'ordre économique, avec ce que l'on appelle la nouvelle économie. Je vais faire un tout petit peu de sémantique ici, puisque l'expression « nouvelle économie » est utilisée avec trois significations différentes. Son emploi initial était macroéconomique, pour désigner le caractère exceptionnel de la situation économique des États-Unis depuis le début de la décennie 90, situation caractérisée par la conjonction d'une croissance forte et durable, d'une inflation faible et d'un quasi plein emploi. C'était donc, on se demandait si les cycles économiques qui faisaient donc alterner les périodes de croissance et de récession, qui rendait l'inflation qui faisait que lorsqu'on était en période d'inflation, qu'on ne pouvait pas avoir à la fois une faible inflation et un plein emploi, on se demandait si ces cycles économiques traditionnels n'étaient pas révolus avec l'introduction des nouvelles technologies. Donc à cette première acception macroéconomique est venue s'adjoindre une signification microéconomique plus récente qui se décompose elle-même en deux significations distinctes. La nouvelle économie désigne pour certains le secteur formé par les industries de l'information et de la communication, donc l'informatique, les télécoms, l'audiovisuel et Internet, qui est maintenant une nouvelle industrie elle seule. Et pour d'autres, la nouvelle économie renvoie plutôt à la transformation opérée dans l'ensemble du système économique, dans les modes de production et d'échange par la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment sous l'effet du phénomène Internet. Je préfère, en ce qui me concerne, réserver l'expression économie numérique à ce nouveau secteur de la communication et de l'information et parler de nouvelle économie pour désigner l'ensemble du processus de transformation de l'ensemble du système économique. Quoi qu'il en soit, ce qui est à retenir, c'est le dynamisme de ce secteur, sa contribution à la croissance et à la transformation des modes de production et d'échange. Quelques chiffres. Le chiffre d'affaires des industries de l'information et de la communication dépasse aujourd'hui largement les 1 000 milliards de dollars, soit 5 à 6% du produit intérieur brut mondial, concentré entre les États-Unis, l'Europe et le Japon. Affichant un taux de croissance de 10% par an, ces industries tirent la croissance économique mondiale et ont contribué en 1998 pour environ un tiers à celle des États-Unis. En France, les nouvelles technologies ont contribué, toujours en 1998, à hauteur d'environ 15% à la croissance de l'économie, ce qui représentait déjà plus que l'automobile et l'énergie réunies. Au-delà de leur poids intrinsèque, les industries de l'information et de la communication tirent leur caractère stratégique de leurs effets induits sur l'ensemble de l'économie. On annonçait depuis la fin des années 70 cette transformation. Ces effets vertueux sur la croissance globale, sur la productivité et sur l'emploi ont pourtant mis une bonne quinzaine d'années à se concrétiser. Il a fallu un long processus de diffusion des technologies, d'apprentissage dans l'économie et dans la société pour arriver à ce résultat. Ah, les portables, vous voyez. Mais après ces 15 ans d'acclimatation, pourrait-on dire, les technologies de l'information et de la communication sont désormais au cœur de la croissance. Et ces effets vertueux prennent appui sur la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire le fait que l'économie soit de plus en plus une économie de services, qui est un phénomène de longue durée, qui est à l'œuvre depuis le milieu du XXe siècle. Et elles prennent également appui sur le caractère de plus en plus immatériel et de plus en plus informationnel de la production et des échanges. Donc sur cette économie primaire de la communication, celle des outils de la société de l'information, donc les téléphones, les ordinateurs, les télévisions, les équipements informatiques et de télécom, sur cette économie primaire est venue se greffer progressivement une économie secondaire, qui est l'économie réelle, l'ensemble de l'économie interconnectée, et donc au contour de plus en plus vaste. Alors, contribution à la croissance et l'emploi, mais également métamorphose de l'ensemble de l'économie. Et là, le phénomène Internet est tout à fait clé. En effet, Internet est capable de dupliquer des pans entiers de l'économie réelle en abolissant de surcroît la distance géographique, le temps et une partie des contraintes logistiques. Il permet ainsi aux entreprises, aussi modestes soient-elles, d'avoir un accès immédiat et instantané à une clientèle planétaire, tout en réduisant leurs coûts d'intermédiation et de gestion. Cette vertu rejaillit sur le réseau lui-même en faisant un gigantesque marché virtuel et ininterrompu, qui fonctionne 24 heures sur 24, de dimension mondiale. Le cyberespace que préfigure l'Internet d'aujourd'hui s'appréhende ainsi comme une métaphore quasi parfaite du marché mondial, compte tenu du caractère encore largement non réglementé du commerce électronique et de la croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs. Le nombre d'internautes était estimé en 1993, qui était donc la première année du web, à environ 1,3 million. En 1999, le nombre d'utilisateurs d'Internet, résidentiels ou professionnels, s'est élevé à environ 170 millions. Et on estime que ce chiffre devrait tripler d'ici 2003 et qu'on devrait atteindre quelque chose comme 600 millions d'internautes. Donc c'est une croissance absolument spectaculaire. Le mouvement de convergence entre la téléphonie mobile et Internet devrait encore démultiplier l'audience d'Internet, puisque le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde devrait prochainement atteindre 500 millions. Conséquence de cette croissance, le commerce électronique pourrait réaliser à l'horizon 2003 un chiffre d'affaires compris, selon les estimations, qui varient beaucoup, entre 1 500 et 3 000 milliards de dollars. Le commerce entre entreprises, ce qu'on appelle le commerce B2B, business to business, se taillant la part du lion. L'impact des nouvelles technologies sur les modes de gestion et la productivité des entreprises qui en tirent parti est considérable. L'utilisation du réseau permet par exemple une gestion en temps réel des commandes et des livraisons, c'est-à-dire l'élimination de stocks coûteux à gérer et une utilisation plus efficiente du capital. Elle permet également une communication en temps réel des entreprises avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, avec leurs partenaires, avec leurs employés, communication qui est génératrice d'énormes économies et d'un concept d'entreprise virtuelle constitué d'une constellation de relations entre unités décentralisées, le plus souvent extérieures, et donc reliées entre elles par la technologie. La numérisation de l'économie engendre ainsi un processus de désintermédiation, d'externalisation des fonctions, c'est-à-dire qu'un certain nombre de fonctions qui étaient au sein de l'entreprise sont maintenant sorties, externalisées, et donc pour créer ce réseau de petites unités, et donc de contraction de la taille des entreprises. L'impact des nouvelles technologies numériques s'étend naturellement bien au-delà de la sphère économique, même si leurs effets dans ces autres sphères sont plus lents, donc plus difficiles à mesurer. Je pense à l'organisation du travail, aux industries culturelles, aux effets sur le fonctionnement de la démocratie, à la transmission des connaissances. Et les mots-clés sont ici toujours les mêmes. Décentralisation, désintermédiation, déhiérarchisation, communication, participation, flexibilité, transparence. Quelques rapides coups de projecteur sur les évolutions dans ces différents domaines. Selon les statistiques officielles américaines, l'entreprise individuelle sera le premier employeur à l'horizon 2005, loin devant les administrations. C'est à soi seul une révolution que prépare déjà la fin du modèle pyramidal et hiérarchique des relations sociales dans l'entreprise. L'entreprise fonctionne de plus en plus aujourd'hui en réseau, en mode projet. Et stimulant de cette révolution, c'est évidemment le renouveau de l'esprit d'entreprise amené par le phénomène Internet et la nouvelle économie, qui est un phénomène tout à fait spectaculaire et fondamental. Deuxième exemple, la recherche scientifique ne se conçoit plus aujourd'hui indépendamment d'Internet, qui en a modifié les usages et qui en a renforcé le caractère collectif et planétaire. Troisième illustration, le numérique est en train de modifier en profondeur les modes de production et de distribution, de consommation des industries musicales et cinématographiques. Je pense évidemment au téléchargement de musique et de films. Et le même phénomène commence à affecter l'industrie du livre. Internet favorise aussi l'émergence d'une société civile planétaire, renforce la tendance participative et la transparence dans les démocraties avancées et constitue un instrument d'ouverture et de libéralisation irrépressible partout dans le monde. On a vu qu'au début d'Internet, la Chine, par exemple, avait essayé de s'opposer à la pénétration d'Internet. Peine perdue, c'est un secteur qui est aujourd'hui en pleine explosion en Chine. L'effet à long terme des technologies de l'information et de la communication sur le lien social, sur l'apprentissage des connaissances, et sur le processus cognitif lui-même reste difficile à cerner, mais il sera sans aucun doute très important. Michel Serres entrevoit dans les nouvelles technologies la troisième révolution de l'humanité. Je le cite, « Nous sommes désormais libérés de l'écrasante obligation de toute activité mémonique, tout comme nous sommes libérés d'un certain nombre de rationalités opératoires. Toutes ces facultés, mémoire, raison opératoire, même imagination, sont en train de descendre dans des objets. Qu'allons-nous en échange gagner? Quel homme sommes-nous en train de créer ?» Je précise que sa vision est optimiste. Il considère que la libération de toutes ces contraintes historiques pour l'humanité est propice à une nouvelle créativité, à de nouvelles inventions. Qu'allons-nous donc inventer une fois que nous sommes libérés de toutes ces contraintes et que les objets font cela pour nous? Alors, pour conclure ce premier temps, est-ce que le numérique constitue une révolution comparable à la découverte de l'imprimerie ou un simple progrès technique? Est-ce qu'on a là une troisième révolution industrielle ou une simple accélération des évolutions en cours depuis le dernier demi-siècle ? Le débat reste ouvert. Gardons cependant à l'esprit, avant de chercher à le trancher, que nous ne sommes qu'au commencement de l'ère numérique, que l'Internet de deuxième génération, celui du haut débit, de la mobilité et de l'ubiquité qui occupe industriels et techniciens, est encore devant nous. Alors, quelques explications rapides sur ces trois mots. Donc, le haut débit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les réseaux à large bande passante, c'est-à-dire que ce sont des réseaux qui permettront de faire passer des quantités considérables d'informations et également de l'image, donc de la vidéo, et qui permettront notamment d'avoir accès à des films avec un niveau de qualité et de rapidité beaucoup plus satisfaisant que ce que nous avons aujourd'hui. La mobilité, c'est précisément le fait qu'on pourra accéder notamment à travers des téléphones portables ou de toutes sortes d'instruments qui sont à mi-chemin entre un téléphone portable et un ordinateur à des services Internet. L'ubiquité, c'est le fait précisément qu'on nous prédit que l'ensemble des objets de notre environnement quotidien seront équipés de puces, deviendront intelligents et communiqueront entre eux. Donc du frigidaire à la machine à laver, tout cela fonctionnera de manière intelligente et autonome. J'en viens maintenant plus brièvement, maintenant que la base technologique est posée, à la deuxième caractéristique de l'ordre numérique, son caractère hiérarchisé. En effet, l'univers numérique, bien que révolutionnaire, bien que perturbateur, n'en est pas moins déjà structuré par des rapports de force. Et plus exactement, le numérique renforce les hiérarchies existantes tout en portant en germe la capacité de les éroder. Hiérarchisation et contestabilité sont toutes deux à l'œuvre dans le nouvel ordre numérique, ce qui le rend d'ailleurs intéressant. Et je voudrais illustrer cette dialectique de trois manières différentes. La première illustration concerne de nouveau l'économie numérique qui présente le paradoxe d'être à la fois très concentré et très concurrentiel. Très concentré d'abord puisque les industries de l'information et de la communication tendent à être structurellement oligopolistiques en raison de l'existence historique de monopoles nationaux comme dans les télécommunications, en raison de la présence de fortes économies d'échelle dans les secteurs comme l'informatique ou l'audiovisuel, en raison, enfin, de la place qui occupe les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, plus ou moins exclusifs, les brevets, les licences d'exploitation de droits, le savoir-faire, etc. L'hégémonie durable de Microsoft sur le marché mondial des systèmes d'exploitation, ou de celle d'Intel sur celui des microprocesseurs, illustre cette tendance des industries de l'information à se constituer en quasi-monopole à l'échelle mondiale. À ces données structurelles s'ajoute un mouvement de concentration économique, horizontale et verticale, dont les causes sont multiples. Mondialisation de la demande, qui nécessite l'obtention d'une taille critique et l'organisation d'une mondialisation équivalente de l'offre. Importance des investissements requis par le processus de numérisation et de mise à niveau des infrastructures de communication en vue de véhiculer des services multimédia. Je parlais du câble il y a un instant, donc pour transformer les réseaux câblés consacré à la télévision pour pouvoir y faire passer des services Internet, cela nécessite des investissements considérables. Stratégie d'intégration verticale ou de concentration horizontale sur toute ou partie de la filière de la convergence, c'est-à-dire que les opérateurs souhaitent être présents sur l'ensemble de la filière. On ne se contente plus de faire du téléphone, il faut faire de l'audiovisuel, il faut faire de l'Internet, et donc on a la constitution de groupes multimédia de plus en plus importants. En sens contraire, l'innovation technologique et le phénomène Internet en particulier sont des facteurs puissants de concurrence, voire de déstabilisation des hiérarchies les mieux établies. Le paradoxe n'est qu'apparent puisque les économistes considèrent que le critère ultime du niveau de concurrence prévalant sur un marché est moins son taux de concentration en termes de part de marché que son degré de contestabilité, c'est-à-dire la mesure dans laquelle de nouveaux entrants, de nouveaux opérateurs peuvent venir concurrencer les acteurs déjà installés, voire remettre en cause leur position. Or, quatre puissants facteurs se conjuguent pour maintenir l'économie numérique en état de contestabilité permanente: la rapidité et la constance de l'innovation technologique, la substituabilité des réseaux et des supports qui résultent de la numérisation, le démantèlement des barrières réglementaires, Enfin, la mondialisation des marchés et des acteurs qui fait que le marché est de plus en plus ouvert, de plus en plus vaste et de plus en plus concurrentiel. Les industries de l'information et de la communication ont été les premières affectées par ce phénomène de concurrence généralisée. L'industrie informatique a longtemps été dominée donc, par le trio IBM, Microsoft, Intel, s'est trouvée bouleversée par les technologies de réseau. Les télécommunications et l'audiovisuel subissent de plein fouet la concurrence d'Internet, à la fois comme réseau et comme média. Et de proche en proche, Internet exerce ses effets perturbateurs sur l'ensemble des secteurs économiques et sur l'ensemble des métiers. Il n'est plus aujourd'hui un seul métier, une seule profession qui ne soit pas à un degré divers, à des degrés divers, affectés par ce phénomène de la numérisation. La dynamique concurrence-concentration a son équivalent d'ailleurs au plan culturel, puisque la concentration des industries de production et de distribution de biens culturels n'a pas engendré l'effet d'uniformisation redouté, mais semble favoriser au contraire l'expression d'une plus grande diversité, à l'image de l'essor des musiques du monde, par exemple, au cours des 10 dernières années. Donc le fait qu'on ait une industrie musicale concentrée entre 5 gros acteurs mondiaux n'a pas, au contraire, engendré une standardisation. On a au contraire des musiques de plus en plus variées qui parviennent à se faire entendre. Et Internet va évidemment accroître ce phénomène avec des réseaux parallèles où le producteur est à la fois diffuseur et c'est tout l'enjeu des batailles juridiques autour de cela. Qu'il s'agisse de grands acteurs mondiaux comme Microsoft, comme AOL Time Warner, comme MCI WorldCom, ou de petites entreprises innovantes, ce que l'on peut constater, c'est que l'industrie, l'économie numérique est aujourd'hui très largement américaine. Et c'est la deuxième illustration des hiérarchies numériques. L'avance ou l'avantage des États-Unis dans la révolution numérique par rapport à l'Europe et à l'Asie est donc une deuxième manifestation de ces rapports de force. Je vais illustrer ça rapidement. Leadership américain. Ce leadership s'observe dans pratiquement tous les domaines. Domination de l'industrie informatique mondiale, notamment des systèmes d'exploitation pour ordinateurs et des microprocesseurs, ainsi que de celle des images avec le leadership historique de Hollywood. Contrôle de l'infrastructure d'Internet et de son organisation. Taux de pénétration des ordinateurs personnels et de la connexion Internet dans la société et dans l'économie, qui sont à peu près doubles de celles de l'Europe. Investissement massif des entreprises américaines dans les nouvelles technologies de l'information depuis une dizaine d'années. On cite le chiffre de 1 300 milliards de dollars d'investissement. Donc la révolution numérique est née et se poursuit aux États-Unis avec entre 5 et 10 ans d'avance sur le reste du monde développé et un leadership industriel et technologique difficilement réversible. Et pourtant, c'est toujours l'autre volet de la médaille, les États-Unis commencent à regarder avec intérêt vers l'Europe et vers le Japon, qui sont en avance dans les technologies mobiles, et qui sont censées devenir le premier mode d'accès à Internet. En effet, l'Europe notamment a eu la bonne idée d'inventer la norme GSM au début des années 90, qui a permis d'avoir une norme standardisée pour l'ensemble du continent, et qui, norme qui a pu trouver à s'exporter également, et qui est donc devenue un standard international. Une fois n'est pas coutume, les États-Unis, eux, ont conservé plusieurs normes différentes, et donc ont un marché beaucoup plus fragmenté, et n'ont pas de normes internationales. Il y a donc une avance des Européens et des Japonais en matière de technologie sans fil. L'Europe est également en avance dans la télévision numérique et interactive, et ses grands opérateurs sont de plus en plus présents dans la compétition numérique mondiale. Ces atouts et quelques autres parviendront-ils à atténuer à terme le déséquilibre transatlantique qui caractérise aujourd'hui l'économie numérique? Je crois que la réponse n'est écrite nulle part. Les hiérarchies numériques résultent enfin de l'inégalité d'accès aux outils de la société de l'information. Je veux parler ici de ce qu'on appelle souvent le fossé ou la fracture numérique. Fossé qui existe déjà au sein des sociétés développées. Entre ceux qui ont accès à un ordinateur et qui ont accès à Internet et les autres, entre ceux qui sont en mesure d'en faire usage et les autres, entre ceux qui disposent d'une formation qualifiée et les autres, entre les entreprises qui sont en train d'accomplir leur révolution numérique et celles qui sont en train de regarder le train passer. Il est clair qu'il y a là un enjeu capital pour les pouvoirs publics en termes d'éducation et de formation, en termes d'équipement des écoles et des universités, et plus généralement en termes de diffusion des nouvelles technologies et de la culture numérique dans l'ensemble de la société et de l'économie. Le fossé numérique est encore plus béant entre le monde industrialisé et le monde dit en développement. Je rappelle que 88% des utilisateurs d'Internet vivent dans les pays développés et que l'Afrique ne compte que 0,3% des internautes. Symbole de la mondialisation, Internet s'arrête donc aux portes du sous-développement numérique qui se caractérise par la quasi-absence d'infrastructures de télécommunications et a fortiori d'équipements informatique et d'accès à Internet, par l'absence de formation à l'utilisation de ces technologies et par la volatilité des élites locales, qui sont elles formées, dans une société numérique qui est de plus en plus mondialisée. Alors le défi est là aussi immense et planétaire, à la mesure des enjeux qui sont à la fois négatifs, c'est-à-dire éviter l'exclusion de pans entiers de l'humanité de cette nouvelle civilisation numérique, mais également positifs. Il s'agit de tirer parti des opportunités réelles qu'offre la révolution numérique au service du développement, qu'il s'agisse d'éducation, qu'il s'agisse de santé publique, de commerce électronique, de communication scientifique, d'ouverture politique et même de rattrapage technologique, puisque les réseaux mobiles, toujours eux, sont moins coûteux et plus faciles à implanter que les réseaux fixes et pourraient permettre de rattraper le retard technologique d'un certain nombre de pays et par là même de servir de tête de pont future pour l'accès à Internet et à la société de l'information. Alors pour conclure ces développements de ce deuxième volet de mon exposé, retenons que le nouvel environnement numérique est un univers hiérarchisé, mais qui porte néanmoins en germe la capacité à provoquer de profondes redistributions des cartes. J'en viens maintenant à la troisième déclinaison du concept d'ordre numérique, la question de la régulation de la société de l'information. La société de l'information et les réseaux numériques sont porteurs de différentes menaces qui occupent de manière croissante notre actualité. Je pense au hold-up virtuel de la banque Egg, au virus I Love You, au réseau d'espionnage Epsilon, au site révisionniste, etc. Je ne m'étendrai pas ici sur la préoccupation générale sur les dangers potentiels que recèle la société de l'information ou du divertissement, pourrait-on dire aussi, pour les véhicules traditionnels de la culture, pour la fiabilité de l'information qui circule sur les réseaux, pour la préservation de la mémoire historique. Ces dangers sont réels, ils n'autorisent pas pour autant à considérer, comme le font certains un peu trop conservateurs à mon goût, que la révolution numérique est une régression plutôt qu'un véritable progrès. Je crois en outre que ces dangers relèvent moins du droit que de la vigilance et de l'esprit critique de chacun et donc de l'éducation, de la formation, etc. Mais il y a d'autres atteintes à nos droits, à nos libertés, à notre sécurité. Les réseaux numériques facilitent tout d'abord la commission d'un certain nombre de délits ou de nuisances qui n'ont rien de spécifique à la société de l'information, mais dont le numérique aggrave les effets néfastes. Délits commerciaux et financiers, diffusion de contenus illicites ou préjudiciables, atteinte à la vie privée dès lors que l'exploitation commerciale des données personnelles est au cœur de la nouvelle économie et que les technologies de l'information confèrent aux États de redoutables moyens de surveillance planétaire. Une seconde catégorie de menaces est, elle, propre à l'environnement numérique. Pense à la cybercriminalité, entendue au sens d'atteinte portée à la sécurité même des systèmes informatiques, notamment par la propagation de virus ou par l'effraction dans des sites privés. Je pense aussi évidemment au piratage, c'est-à-dire à la diffusion ou à la copie à grande échelle de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle, musique, film, texte. Face à ces menaces, le système juridique lui-même se trouve mis à l'épreuve. L'environnement numérique est en effet porteur de nombreux défis aux catégories fondamentales du droit des sociétés démocratiques et des économies libérales. Quelques illustrations. Le droit s'applique généralement à des réalités tangibles et permanentes, personnes physiques, biens, meubles et immeubles. Le numérique est le royaume de l'immatériel, de l'éphémère et du virtuel. Le droit est traditionnellement l'émanation étatique et d'application territoriale. Le numérique ne connaît ni les frontières, ni même la distance géographique. L'ordre économique capitaliste repose sur le droit de propriété, qui implique les notions de sujet, d'identité, d'authenticité. Le numérique subvertit ces notions en permettant la reproduction parfaite et l'appropriation, ou à l'opposé, la manipulation permanente des signes, ou encore en donnant naissance à des existences ou à des relations purement virtuelles. Alors, face à de tels antagonismes, on a d'abord redouté l'avènement d'une jungle numérique sans foi ni loi qui autoriserait à commettre dans le cyberespace tout ce qui est illicite et réprimé dans le monde réel. Cette crainte était fréquente lors des débuts d'Internet, elle est aujourd'hui en passe d'être dissipée au vu des manifestations évidentes de l'appréhension des technologies numériques par le droit. Selon une deuxième thèse, le développement de l'univers numérique appellerait une remise en cause fondamentale des cadres réglementaires, voire des catégories du droit actuel des industries de la communication. Cette thèse est également dépassée. Un consensus existe en effet aujourd'hui pour considérer que les nouvelles technologies ne remettent pas en cause les concepts fondamentaux du droit et peuvent au contraire être appréhendées par les normes existantes au prix d'un certain nombre d'adaptations et d'un renforcement des mécanismes de sanctions. Donc le concept d'un droit du numérique ou d'une régulation spécifique d'Internet apparaît aujourd'hui dépourvu de pertinence. Le défi lancé à l'ordre juridique par le développement de l'économie numérique, concernant principalement la mise en œuvre des règles de droit existantes, le contrôle de cette mise en œuvre et en définitive la sanction des manquements constatés. Mais la généralisation des technologies numériques entraîne d'ores et déjà deux conséquences majeures sur les modes de production des normes juridiques: leur nécessaire internationalisation et le recours croissant à des mécanismes d'autorégulation plus ou moins encadrés par la puissance publique. Le mouvement d'internationalisation est la conséquence directe du caractère planétaire des communications véhiculées par les réseaux numériques. L'exploitation des nouvelles technologies ignorant le plus souvent les frontières, les règles purement nationales se trouvent privées de portée pratique dès lors qu'elles n'offrent aucune protection effective face aux communications émanant de l'étranger. La coopération internationale en matière de définition des règles du nouvel ordre numérique, fussent-elles de simples adaptations ou de simples mécanismes de protection et de sanction des normes existantes, est donc devenue indispensable. Les technologies numériques renforcent donc la tendance à l'internationalisation du droit, tendance déjà largement à l'œuvre sous l'effet de la construction européenne en Europe et sous l'effet de la mondialisation économique. Je prendrai un exemple, celui de la protection des données personnelles, dans lequel les États-Unis et l'Europe partaient de conceptions très différentes, puisqu'il n'existe pas de réglementation des données personnelles par la loi aux États-Unis, tandis que l'Europe, à l'initiative de la France, qui avait dès 1978 adopté une loi informatique et liberté qui était donc très protectrice des fichiers et des données personnelles. Donc l'Union européenne a également adopté une directive en ce sens. Eh bien, les États-Unis et l'Europe ont été obligés de négocier, de trouver un compromis qui assure aux données personnelles en provenance d'Europe et circulant aux États-Unis un niveau de protection satisfaisant pour les citoyens européens. Et donc on est arrivé à une convergence également sur le plan juridique. Le recours accru aux techniques d'autorégulation, je parle d'autorégulation, je viendrai à la co-régulation dans un instant, est peut-être plus révolutionnaire encore pour la tradition juridique européenne. Donc, l'autorégulation consiste à adjoindre à la puissance publique et à la loi ou au règlement les acteurs privés, c'est-à-dire les opérateurs et même les utilisateurs, et des mécanismes librement consentis pour réguler la société numérique. Pourquoi ? Parce que les dispositions impératives générales se trouvent disqualifiées par la rapidité des évolutions technologiques et de leur prolongement, la rapidité de leur prolongement économique et sociaux, ainsi que par la difficulté pratique, dont je parlais il y a un instant, à contrôler et à sanctionner l'application de ces règles. Donc face à ces problèmes et puis à la complexité des négociations internationales donc nécessaires pour arriver à une règle commune, l'autorégulation permet l'élaboration de normes privées, on appelle des chartes, des codes de conduite, des polices, ce que vous voyez souvent sur la page d'accueil d'un site où on vous explique quel est le règlement finalement que l'opérateur s'impose à lui-même. Ce sont donc des normes sur mesure qui sont plus faciles à faire évoluer et dont la police est assurée par les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire par les utilisateurs et par les opérateurs. Sous-jacente à cette privatisation partielle du droit est l'idée selon laquelle les parties prenantes à l'autorégulation ont un intérêt suffisant au bon fonctionnement du système pour le respecter sans réglementation contraignante des États. La nécessaire coopération entre acteurs publics et privés dans la régulation d'Internet a donné naissance en France à ce concept donc de co-régulation qui exprime l'idée que l'autorégulation donnait un peu l'idée que les acteurs privés faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient sans la règle de l'État. Les choses sont un peu plus complexes. Il y a un cadre général posé par les États. Et dans ce cadre, il y a toute une série de règles plus spécifiques, plus détaillées. Et donc l'idée de co-régulation exprime cette idée de coopération entre le secteur public et le secteur privé. Au-delà de ces évolutions du droit, donc internationalisation et co-régulation, la question demeure de savoir si les défis de la régulation numérique peuvent être relevés sans induire à terme la modification d'un certain nombre de pratiques constitutives de l'ordre juridique en vigueur. Il est clair que l'accession d'Internet au rang de phénomène socio-économico-culturel majeur, et donc le potentiel commercial et financier que cela représente, conduiront les États et les acteurs privés à coopérer pour le domestiquer et pour en faire progressivement un espace plus ou moins parfaitement policé, d'où la notion d'ordre numérique. Mais pour autant, la complexité des problèmes posés et l'ampleur des changements requis par la simple adaptation des systèmes juridiques au nouvel environnement numérique sont sans doute, me semble-t-il, sous-estimés. Et au terme d'une évolution qui n'en est encore, je le répète, qu'à ses premiers balbutiements, on ne peut exclure que l'exploitation des technologies numériques produise de nouveaux schémas d'organisation économique, conduisant à leur tour à l'érosion de certaines catégories juridiques traditionnelles au profit de concepts inédits en gestation. Les restructurations industrielles et les batailles juridiques qui sont en cours aux États-Unis autour de l'avenir de la propriété intellectuelle dans l'ère numérique, je pense notamment au procès Napster, sont sans doute une préfiguration de cette évolution, pas seulement donc de l'adaptation du droit, mais véritablement des schémas d'organisation économique et donc des concepts juridiques qui devront ensuite accompagner et traduire ces schémas. Voilà, au terme de cette petite navigation, pour reprendre un terme de l'art, je ne suis pas sûr du tout de vous avoir convaincu du caractère ordonné du nouvel ordre numérique, du nouvel univers numérique, mais tel n'était finalement pas mon propos. J'espère en revanche vous en avoir fait pressentir le potentiel révolutionnaire et vous l'avoir rendu un peu plus familier, ce qui est un préalable à toute tentative de maîtrise de notre avenir numérisé. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à essayer de répondre à vos questions. Merci.
Au sujet du droit, oui. Qui décidera et au nom de quel principe ? Est-ce qu'il faut un tribunal international ?
Alors, c'est une vaste question. Donc, ce que je disais, qui décidera, si vous voulez ? Nous avons actuellement des règles nationales. Nous avons actuellement un écheveau de règles nationales, de règles internationales qui sont prises soit au niveau de l'Union européenne pour l'Europe, soit au niveau d'organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OCDE, l'OMC, enfin toute une série d'organisations internationales qui essayent de définir des règles d'application universelles, puisque, comme je le disais, des règles purement nationales ne peuvent pas appréhender le caractère planétaire du réseau. Dans l'intervalle, parce que ce processus prend beaucoup de temps et suscite beaucoup de conflits, parce que les conceptions sont différentes, les États n'ont pas, même au sein de l'Europe, n'ont pas la même conception de la liberté d'expression, jusqu'où elle va, de la protection qu'il faut accorder à tel ou tel droit ou à telle ou telle liberté. Dans l'intervalle, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la régulation se fait au cas par cas, c'est-à-dire que tel ou tel phénomène, telle ou telle affaire se produit, et bien les tribunaux en sont saisis et rendent la justice, alors selon le droit national, parce que c'est quand même le plus commode, mais en essayant de s'inspirer des règles admises communément. Donc c'est une régulation pragmatique, qui se fait quand même de plus en plus en concertation avec les autres pays. Donc je crois qu'il faut abandonner le modèle purement national d'abord, purement étatique, où les règles viennent du haut, parce que tout simplement ça ne correspond pas à ce nouvel environnement qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus évolutif, qui est beaucoup plus international. Mais c'est un vaste chantier. Mais pour le moment, il me semble que les différentes autorités se débrouillent plutôt bien avec les moyens existants. Il n'y a pas de grand problème pour lequel une autorité n'a pas été saisie. Ça se passe plutôt bien.
Monsieur, allez-y. Ça marche.
Ça marche. Parlez. Oui. D'abord, je tenais à vous remercier pour cet exposé très dense, très structuré, et en plus très clair. Alors moi, ma question que je pose, c'est effectivement, on a créé en France et dans les pays un comité national d'éthique sur la génétique. Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas urgent de créer un comité national d'éthique sur la communication ? Je prends un exemple. Aujourd'hui, on a enregistré votre conférence, votre voix, l'image, et vous savez très bien qu'avec les techniques, je peux vous faire modifier 2-3 minutes de votre discours en faisant ce qu'on appelle du révisionniste, comme ça. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est urgent de créer un comité de ce genre, en France et dans d'autres pays ?
Alors, deux choses. Bon, pour reprendre l'exemple que vous avez cité, en ce qui concerne les droits de ma conférence, si vous voulez, je les ai cédés contractuellement donc aux organisateurs de ces manifestations pour qu'ils puissent le diffuser librement comme ils l'entendent. Lorsque, si à titre privé, vous faisiez une manipulation de mon texte, en plaçant des phrases, en me faisant dire ce que je n'ai pas dit, je pourrais sans doute vous poursuivre selon les instruments juridiques existants. Non, le problème que vous posez, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des instruments, et notamment, n'oublions pas quand même le contrat, qui est un instrument très important de cette nouvelle régulation, non seulement de l'environnement numérique, mais d'ailleurs de l'ensemble de nos sociétés, parce que c'est un mouvement plus général qui fait que le contrat, la jurisprudence sont appelés à jouer un rôle, jouent déjà un rôle de plus en plus important dans la régulation de nos sociétés. Mais faut-il un comité d'éthique ? Je crois qu'il faut... Et d'ailleurs, c'est un projet actuel du gouvernement en France, puisque le gouvernement a confié à M. Christian Paul l'année dernière une mission sur la régulation d'Internet. Il faut être très prudent quand on parle de régulation d'Internet, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait à l'opposé de la culture Internet, qui est une culture libérale, voire libertaire, qui est fondée sur la liberté d'expression. Et donc, on parle de régulation, donc d'intervention de l'État, de contrôle, de surveillance, de censure. C'est très mal perçu. Donc l'idée développée par Christian Paul au terme de sa mission, c'est de créer un forum des droits de l'Internet, c'est-à-dire simplement une association qui réunirait les différentes parties prenantes, les opérateurs, les utilisateurs, les autorités publiques et les experts, pour être un forum donc, de discussion et d'approfondissement d'un certain nombre de problèmes qui n'émettrait pas de normes contraignantes, mais simplement des recommandations, des avis. Je crois que c'est une bonne idée. Et ça devrait, j'espère, voir le jour. D'autres États font pareil. Il y a en tout cas un processus de concertation un peu spontané entre ces différentes autorités. Donc je crois qu'effectivement, c'est indispensable, même si les questions purement éthiques posées par opposition à purement juridique, hein, posées par Internet, sont quand même moins aiguës que celles de la bioéthique et des biotechnologies qui posent véritablement des questions éthiques. Mais je crois que même dans la société de l'information, nous allons vers la constitution de comités comme ça, mais soft. Voilà.
Monsieur.
Oui, après. Peut-être pour apporter un bémol à la réponse que vous avez faite à la première question, est-ce qu'il serait possible de faire le point sur les poursuites juridiques, par exemple, du créateur du virus I Love You ? Je crois qu'il était identifié aux Philippines. Et en lisant dans la presse récemment des informations sur ce jeune homme, on n'avait pas l'impression qu'il était tellement poursuivi. Il avait l'air de se faire oublier, mais je crois savoir qu'il n'a pas été inquiété juridiquement aux Philippines. Parce que la loi des Philippines ne permettait peut-être pas une poursuite, je ne sais pas.
J'avoue que je n'ai pas suivi les derniers développements de cette affaire. Il est évident que ce virus a créé des dommages considérables et que de toute façon, on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait faire, en termes financiers, la réparation de ce préjudice par une personne physique n'est pas adéquate. Donc je crois que c'est effectivement plus par des... par des sanctions pénales et autres, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas non plus quel est le dernier état de l'analyse des faits, de sa culpabilité, etc. Donc je ne peux pas vous répondre sur cette question spécifique, mais il y a une course en tout cas technologique là, entre les spécialistes d'informatique qui cherchent, on a l'impression d'ailleurs souvent, à tester le niveau de résistance et la capacité de niveau de sécurité des réseaux, c'est une espèce de jeu, et puis évidemment les États, les entreprises qui essayent d'être de plus en plus sûres et fortes dans le réseau. Donc il y a une espèce de course technologique, mais je crois qu'en tout cas les États se sont saisis de ce problème, puisqu'il y a eu une conférence du G8, donc des principaux pays industrialisés, consacrée à la cybercriminalité au mois de juillet au Japon. Il y a eu également en France un certain nombre de travaux, donc je crois que c'est un problème que les États et les entreprises prennent très au sérieux.
Monsieur.
Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez parlé de l'impact de la révolution numérique sur l'économie traditionnelle. Vous n'avez pas mentionné le secteur de la publicité, qui pour un certain nombre d'entre nous est un espèce de mystère, quoi. On a accès à un tas de services gratuits ou de produits gratuits. La rationalité nous oblige à croire que c'est la publicité qui paye tout ça. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Merci beaucoup.
Oui, c'est effectivement une question importante, puisque la nouvelle économie fonctionne selon un modèle en fait médiatique. C'est-à-dire que nouvelle économie au sens de commerce électronique, parce que donc Internet est un réseau, mais c'est aussi un média, un hypermédia, un média planétaire. Et donc, le modèle économique, c'est d'essayer d'attirer le maximum de gens sur des sites. Donc, on les attire généralement par des contenus, par des services, alors qui peuvent être gratuits ou payants selon l'économie du site. Mais enfin, donc l'idée, c'est de générer de l'audience, donc comme une chaîne de télévision ou comme une radio, de manière à attirer des revenus publicitaires. La publicité que vous recevez, elle est payée par des annonceurs, et elle sert souvent à financer le site. C'est souvent d'ailleurs le seul revenu donc il faut bien voir ce caractère d'économie médiatique. Vous avez la publicité sert à financer effectivement si un site ou ce qu'on appelle maintenant un portail, donc qui permet d'avoir accès à toute une série de sites, à une audience qui se compte en millions de gens, c'est effectivement une vitrine très, très, très alléchante pour les publicitaires. Donc la publicité joue un rôle important. Alors, par ailleurs, l'économie elle-même de la publicité, je crois, bénéficie beaucoup d'Internet, puisque toutes les start-up qui se créent ont besoin... très rapidement de se faire un nom. Je crois qu'il y a une espèce de course au premier arrivant. Il s'agit d'occuper le terrain et donc de constituer une marque. Donc vous voyez effectivement souvent dans tout Paris des campagnes de publicité pour des sociétés totalement inconnues, mais qui doivent se constituer en marque très rapidement.
Monsieur.
Je m'étonne que vous n'ayez pas du tout parlé de Linux comme un système d'exploitation gratuit, donc qui n'induit pas une concentration, ce qui semble être une des caractéristiques selon vous. Et la deuxième chose, est-ce que vous ne pensez pas que le caractère libertaire d'Internet, c'est très bien, moi, qu'un virus détruise des réseaux, ça me semble surtout... prouver la fainéantise des programmeurs, exactement comme les escroqueries à la carte bleue. Moreno a démontré que sa puce était parfaitement inviolable et que c'était simplement les banques qui ne prenaient pas les précautions nécessaires.
Alors, Linux, j'en ai pas parlé spécifiquement parce qu'en 50 minutes, c'est difficile d'en parler, mais j'en parlais lorsque je parlais de la remise en cause des positions de l'industrie informatique, notamment de celle de Microsoft, par toute une série d'innovations liées aux technologies de réseau. Il y a Linux, les logiciels gratuits, il y a le langage Java, il y a toute une série de phénomènes. Donc c'est une illustration, si vous voulez, du caractère concurrentiel de cette économie numérique, malgré la présence de quasi-monopoles à l'échelle mondiale. La gratuité, vous avez raison, effectivement, c'est une réponse qu'on pouvait également compléter la réponse à votre question, c'est que c'est une économie qui repose malgré tout en partie sur la gratuité, c'est-à-dire que c'est la loi de Metcalfe, qui était le fondateur de la société 3Com, c'est une loi empirique, hein, évidemment, qui dit que la valeur d'un réseau est égale au carré du nombre de ses utilisateurs. Bien. Donc, j'ai intérêt à ce que mon réseau ait un maximum d'utilisateurs. Et pour ça, j'ai intérêt à leur donner, à la limite, les instruments pour y avoir accès, les contenus. Parce qu'une fois que j'ai obtenu mon audience de masse et que j'arrive à la fidéliser, je peux faire du commerce électronique et leur vendre toutes sortes de choses. Donc, il y a un élément de gratuité qui est à la fois dans la culture initiale d'Internet, qui est né d'abord dans l'université, rappelons-le. Donc, il y a cet aspect-là qui demeure, l'Internet non marchand. Mais il y a aussi une stratégie commerciale qui exploite cette gratuité et qui permet... Alors, il y a des tas de bénéfices à en tirer, hein, de cette gratuité. On peut très bien garder ce qui est gratuit et ne pas consommer. Mais ça fait partie, véritablement, de cette économie. Alors, est-ce que... moi, je ne pouvais pas demander à un juriste de trouver que les virus, c'est très bien, mais simplement, je crois que ce que vous dites sur l'entêtement, c'est cette espèce de... C'est ce que je disais lorsque je parlais d'une course à la technologie, effectivement, ça fait progresser ce genre de phénomène, renforce au bout du compte la sécurité jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle parade, et donc ça fait partie de la domestication de cet univers progressivement. Oui.
Monsieur, ici, on va prendre encore trois questions ou quatre.
Au point de vue juridique, vous avez abordé le problème.
Parlez dans le micro, plus dans le micro.
Au point de vue juridique, vous avez abordé le problème des brevets. Alors, le problème du brevet est compliqué. Quand Einstein développe la relativité, il n'a pas de brevet. Maintenant, j'admets que quand quelqu'un a fait un travail qui permet d'augmenter la productivité, il a le droit à être payé. Et là, il y a un problème délicat. Qu'est-ce que vous pensez au point de vue juridique? Et un deuxième point que j'aimerais aussi aborder, c'est la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression doit être totale? Par contre, les garde-fous, c'est au passage à l'acte.
Qu'est-ce que vous appelez le passage à l'acte?
Parce que si vous voulez, quand Sade écrit un roman et qui respecte les femmes, on n'a pas le droit de le punir. Par contre, si à ce moment-là il fait un viol, c'est le passage à l'acte et à ce moment-là il doit être puni.
Ouais. Alors, sur la première question. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Je pensais à votre deuxième question. Les brevets. Alors, ce qui est compliqué, c'est que les États ont des lois différentes sur la brevetabilité, si vous voulez. Donc, certaines choses qui peuvent être brevetées aux États-Unis, par exemple, ne peuvent pas l'être en Europe ou dans tel ou tel pays européen, parce qu'il n'y a pas d'unification parfaite dans ce domaine. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est parallèlement au phénomène de la gratuité dont on parlait tout à l'heure, il y a une appropriation croissante. C'est-à-dire qu'on peut, dans certains pays, maintenant breveter quelque chose qui sont simplement des modèles économiques. C'est-à-dire qu'on transforme ça en programme informatique, en le codant, etc., en le présentant d'une certaine manière, et on brevette finalement ce qui n'est qu'un concept commercial ou économique, et donc qui ne mériterait pas brevet. Donc il y a une espèce d'inégalité de concurrence, là. Mais malgré tout, la tendance générale de l'économie numérique, c'est plutôt la libre communication, la gratuité, et donc d'où le problème du temps, d'où la nécessité d'être le premier et d'occuper le terrain. Parce que vous savez que vos protections juridiques et même de secret, de confidentialité ne vont pas durer très longtemps. Donc c'est un nouveau schéma dans lequel, justement, c'est tout le problème de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle. C'est que ça n'est plus du tout une parade suffisante et qu'il vaut mieux finalement, occuper le terrain et même à la limite communiquer, fidéliser toute une série d'audiences à partir d'un concept qu'on aurait antérieurement voulu plutôt protéger. Mais ça ne fonctionne plus comme ça. Deuxième question, alors, liberté d'expression, là encore, les États, par exemple les États-Unis sont extrêmement libéraux en la matière. Le premier amendement à la Constitution est sacro-saint, liberté d'expression, donc on peut dire à peu près tout ce qu'on veut, même des messages illicites, etc., révisionnistes et autres. Bon, les États européens ont une conception plus restrictive de la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de discours qui ne sont pas permis. et qui sont donc interdits, notamment donc, incitation à la haine raciale, discours violent, etc. Donc là, il n'y a pas d'uniformité dans les législations, mais globalement, la tendance est d'être aussi libéral que possible en matière de circulation de l'information. Mais il faut quand même, compte tenu justement de l'audience d'Internet, du fait que les enfants, les adolescents y ont accès de plus en plus, on ne peut pas se permettre de laisser une totale liberté. Alors vous avez, bon, la première règle, c'est quand même aux utilisateurs de faire la police, hein, parce qu'il n'y a que aux utilisateurs, aux parents dans les familles, aux associations d'utilisateurs. Il y a tout un série de systèmes de téléphone rouge, par exemple, où on peut contacter des associations. On peut appeler également les opérateurs, les hébergeurs de sites, etc., qui ont aussi une responsabilité. Mais on ne peut pas laisser cet univers totalement sans garde-fou. Parce que c'est trop. L'accès à Internet est beaucoup plus facile que l'accès à toute une série de sites réels, du monde réel, si vous voulez. C'est beaucoup trop. Et puis il y a une masse d'informations, et donc il faut avoir un esprit critique et une formation particulièrement aiguë pour pouvoir faire le tri dans cette masse d'informations qu'on vous balance de partout. Donc ça nécessite une vigilance accrue par rapport au monde réel, finalement.
Une avant-dernière question et puis une dernière là-haut. Non, monsieur ?
Oui, je prends le risque d'être un peu rabat-joie, peut-être. J'ai écouté votre exposé où les mots commerce, économie, profit, dollars reviennent comme un leitmotiv. Je voudrais simplement, de façon très elliptique, vous poser la question : qu'est-ce que sera l'homme dans tout ça ?
D'accord. Puis tout en haut.
Vous voulez prendre les deux questions à la fois ?
Oui. Non.
Je croyais qu'on attendait la deuxième question.
Celle-ci est tellement grande que...
Oui. Ben, c'est une vaste question. Je crois que j'ai parlé beaucoup d'économie parce que c'est là où on voit, comme je le disais, c'est là où les effets sont les plus immédiats, les plus spectaculaires. Enfin, on parle de nouvelle économie, on a une restructuration complète de l'économie. Les effets sociaux, culturels, vont être beaucoup plus lents. Alors, qu'en ferons-nous ? Je crois que ça, c'est aux mains de chacun. Comme toute nouvelle technologie peut être utilisée en bien ou en mal, je crois qu'il y a une prise de conscience des opportunités, à la fois des dangers, on en a parlé, mais également des opportunités formidables que couvrent ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour qu'on puisse en espérer un progrès global. Et je crois que c'est déjà le cas. Enfin, c'est absolument extraordinaire pour la connaissance, pour la recherche, pour la santé, pour le développement. Donc, il faut maintenant pouvoir exploiter toutes ces opportunités, mais on le fera aussi avec de l'argent et sur une base économique.
Dernière question, Monsieur Lahaut.
Vous avez évoqué la liberté d'expression ou sa limitation dans certains endroits. La peut-être nécessité de mettre des garde-fous. Je voudrais que vous précisiez d'une façon concrète si un État, surtout un État important, se sent attaqué par un site, par exemple un site qui inciterait la population à faire une révolution comme celle de 1789, par exemple. Ouais. Est-ce qu'un État qui se trouverait dans cette situation a la possibilité de faire fermer ce site ou sinon d'intervenir contre lui et de quelle façon ?
Bien, effectivement, vous avez toujours... je pense qu'un État ne le fera que s'il considère qu'il y a vraiment soit une menace, soit une atteinte à son image, etc. Bon, parce que sinon, la tendance, encore une fois, est d'être quand même assez libérale dans cette... sauf si, encore une fois, certains intérêts... fondamentaux ou certaines libertés ou certains droits sont en cause, mais comment faire ? Alors si le site est à l'étranger, ce qui est souvent le cas, vous avez toujours malgré tout un intermédiaire technique qui se trouve sur le territoire national, ou au pire vous avez le transporteur, l'opérateur de télécom, etc. Donc vous avez toujours la possibilité sur le territoire national de faire cesser une diffusion avant de prendre des mesures dans le pays concerné. Alors vous avez des mécanismes de coopération judiciaire internationale aussi, mais ça prend plus de temps, mais vous avez le recours, c'est quand même la technique est de prendre celui qui se trouve à portée de main. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que malgré donc ce processus d'internationalisation des règles, à court terme les juridictions nationales agissent sur l'intermédiaire de la chaîne qui se trouve dans leur juridiction, sur leur territoire, et il y a toujours des instruments juridiques qui permettent de le faire. Donc il y a à la fois un pragmatisme et puis un essai d'harmonisation des règles, mais on n'arrivera jamais à une harmonisation complète. Donc ce qu'on constate in fine, c'est qu'il y a une tolérance la plus grande possible, mais lorsque certaines limites sont franchies, eh bien, on interrompt sur son territoire national, et ça a fonctionné. Hein. Et puis les opérateurs eux-mêmes coopèrent. Un portail comme Yahoo fait lui-même la police, parce que, encore une fois, les opérateurs privés ont intérêt à ce que cet univers soit quand même de plus en plus régulé, de plus en plus policé, pour notamment pour faire du commerce.
Merci.